Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine.
La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948 par l'ONU, est un texte fondateur du droit international contemporain. Et vous ne le savez peut-être pas, mais on la doit en grande partie à un Français, René Cassin. Il est le principal rédacteur de cette déclaration. Et plus largement, ce juriste a consacré une grande partie de sa vie à rebâtir un cadre juridique pour le droit international après la Seconde Guerre mondiale. Cet engagement lui a valu en 1968 le prix Nobel de la paix, et il reste à ce jour le dernier Français à l'avoir reçu. Et pourtant, son nom demeure relativement discret aujourd'hui. En 2026, nous commémorons les 50 ans de sa disparition, et pour cette raison, il figure au calendrier de France Mémoire. Alors, une question s'impose à l'occasion de cette date. Comment la vision de René Cassin a-t-elle contribué à bâtir le droit international tel que nous le connaissons aujourd'hui? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Emmanuel Decaux, président de la Fondation René Cassin et professeur de droit international. Bonjour à vous.
Bonjour, merci de votre accueil.
Alors René Cassin, c'est un homme qui a traversé de plein fouet le XXe siècle. Il participe aux deux guerres mondiales. D'abord à celle de 14-18, où il est envoyé à 27 ans sur le champ de bataille. Cette guerre le marque à vie dans tous les sens du terme, mais physiquement d'abord.
Oui, alors Cassin, c'était un juriste. Mais pas que. Il avait commencé des études de droit à Aix-en-Provence et puis à Paris. Et comme vous l'avez rappelé, en 1914, il soutenait une thèse de droit privé. Le 1er avril 1914, ça ne s'invente pas. Et ensuite, il s'apprêtait à préparer le concours de l'agrégation de droit privé, avoir une carrière classique de brillant juriste. Et là, la guerre arrive, il est mobilisé comme toute sa génération. Mais très vite, à l'automne, au moment de la bataille de la Marne, sur le front de la Meuse, il est grièvement blessé, il frôle la mort, il est évacué avec toute une série de blessures sur le flanc, parce qu'il avait eu un tir de rafale.
Et sur l'abdomen, voilà. Des plaies assez béantes.
Voilà, et alors, il avait, toute sa vie, il a porté un corset. Sa convalescence a été très longue et douloureuse, parce qu'à l'époque, on avait des traitements assez sommaires. Ce qui fait qu'en 1916, il est réformé à 65%. Et là, il aurait pu arrêter, se laisser vivre, survivre, ou être amer, cynique, comme d'autres.
Et c'est tout le contraire qui
se voilà. passe. Et voilà. Et d'abord, il reprend des cours de droit à la faculté d'Aix, mais surtout, il commence à s'intéresser au sort des combattants, des mutilés, des veuves de guerre, des orphelins. Pour aller vite, il invente le régime des pupilles de la nation. Il lutte pour qu'il y ait un statut du combattant. Et donc là, il est dans un réseau d'organisations d'anciens combattants avec des responsabilités importantes. Parce qu'il est à la fois juriste et très motivé, mobilisé d'une certaine manière sur cette cause.
En fait, il y a eu clairement un avant et un après sur sa manière de penser le droit au moment de cette Première Guerre mondiale. Avant, le droit, voilà, il le voit plutôt comme une discipline universitaire. Après la Première Guerre mondiale, le droit devient un outil vraiment pour protéger les hommes.
Voilà, et au-delà du droit, je pense que c'était quelqu'un de brillant qui s'intéressait à tout. Sa femme était actrice, donc il avait un côté peut-être touche-à-tout dilettante, en étant très sérieux. Et là, il se concentre sur un droit utile. Déjà, il a cette idée de faire bouger le droit. Et il le dira plus tard, je regrette d'être qu'un juriste, je veux être dans l'action. Et donc, il contribue à mettre en place le régime des anciens combattants. Et par le biais des réseaux d'anciens combattants, il est très vite président de l'Union fédérale en 1922. Et ensuite, il représente les anciens combattants dans la délégation française à la SDN à partir de 1924, qui est le cartel des Gauges, lui-même étant radical socialiste pour aller vite. Et donc là, il a une action au sein de la SDN et de
l'OIT. La Société des Nations, voilà. Déjà un cadre international,
voilà.
En fait.
C'est l'idéal d'une paix fondée sur le droit, fondée sur le traité de Versailles, qui crée à la fois la Société des Nations et puis l'Organisation internationale du travail. Et il participe à tout ce mouvement avec Aristide Briand, Herriot, d'autres.
Il est très bouleversé par le sort des soldats après cette guerre. Vous avez parlé de son engagement pour les anciens combattants. Donc, il s'engage à une échelle européenne puis internationale avec la SDN, vous l'avez rappelé. Ça, c'est vraiment la petite graine qui marque le tout début de son engagement dans le droit international.
Voilà, et alors, il ne se contente pas des relations entre anciens combattants, alliés. Ils ont des contacts avec les anciens combattants ennemis, ex-ennemis. Il y a la SIAMAC qui réunit toutes les fédérations d'anciens combattants. Donc, c'est un dialogue aussi pour construire la paix en tournant le dos à la guerre. Et lui-même bouge beaucoup. J'ai trouvé dans le journal des anciens combattants une photo de lui à Prague en 1938, où il était reçu par Beuve Méry, qui dirigeait l'Institut culturel français à l'époque. Et ça, c'est une photo complètement oubliée. Donc, il y avait cette solidarité à la veille de la guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, avec aussi les anciens combattants des pays alliés.
Vous dites qu'il a une vision très, très ferme de la paix, où il souhaite une position de force. Il rallie De Gaulle en juin 1940, il prend le bateau, il le rejoint à Londres. Quelle fonction il exerçait à ce moment-là, avant de rejoindre De Gaulle à Londres ?
En 1939, au moment de la déclaration de la guerre, il a tout de même 53 ans, je crois. Encore une fois, c'est un grand blessé, donc il n'est pas question qu'il soit sous les drapeaux.
Sur le terrain.
Mais il est affecté au commissariat d'information de Jean Giraudoux. Lui-même parlait très bien allemand, donc il essaie aussi d'informer les Français ou les anciens combattants sur les dangers de la guerre, sur les menaces. Et là, il a des articles sur le droit international qui sont passionnants. Il y en a un qui a été publié dans la revue Défense Nationale en janvier 1940, qui s'appelle « Que reste-t-il du droit international ?» Donc, le droit international est piétiné, est bafoué, c'est un chiffon de papier. Et lui, il considère qu'il faut penser déjà à l'avenir, à reconstruire un ordre public européen fondé sur le droit et surtout sur la dignité humaine. Ce qu'il reproche à l'SDN, c'est d'être une société des nations, mais d'avoir oublié les peuples, les personnes. Et lorsque les minorités nationales, notamment les juifs allemands, étaient persécutés, la SDN était impuissante. C'était des affaires intérieures. Donc lui n'admet pas ça et veut que le droit international, le nouveau droit international, soit fondé sur le respect de la dignité de la personne humaine, avec une vision universelle déjà.
En tout cas, il pense déjà l'après. Il va rester quelque temps à l'étranger, René Cassin, auprès de Gaulle. Est-ce qu'il se fait un réseau à l'international à ce moment-là ? Est-ce qu'il rencontre, je ne sais pas, des juristes importants durant cette période ?
Alors, il y a deux aspects dans votre question. C'est que jusqu'en 40, il a des relations avec des juristes. Une des dernières personnes qu'il cherche à voir, c'est Nicolas Politis, un grand juriste grec. Et il décide d'aller à Londres. Donc, pour lui, ce n'est pas l'étranger, c'est la France libre qui continue le combat avec nos alliés britanniques. Et il arrive à Londres le 28 juin. Il n'a pas entendu le discours du général de Gaulle, mais le 28 juin, il se présente au général de Gaulle, qui tout de suite l'accueille parce qu'il a besoin d'un juriste. Et donc, à partir de là, il a son carnet d'adresses de la SDN. Donc, il connaît des gens comme Anthony Eden, comme Lord Robert Cecil, ou tout le personnel diplomatique britannique, mais aussi les alliés comme Benesch ou d'autres.
Ils s'entendent plutôt bien, De Gaulle et René Cassin, durant cette période. De Gaulle lui confie des missions importantes.
Ils ont tous les deux un fort caractère. Je crois qu'il y a une confiance très profonde qui naît entre eux tout de suite. Cassin est loyal et efficace. Simplement, au début, il a d'immenses responsabilités parce qu'il n'y a personne d'autre. Et puis, à partir de septembre 1941, il aura un rôle moins central. Mais il reste le grand légiste de la France libre, pour reprendre une formule de Pleven. Ça veut dire que toute la structure juridique, administrative et politique de la France libre a été organisée par lui avec beaucoup de méthodes. Du coup, tous les débats sur la légalité ou la légitimité de la France libre, sur la dénonciation du pseudo-régime de Vichy, de la pseudo-constitution, c'est quelque chose qui est mis en musique, qui est orchestré par Cassin, ce qui est essentiel pour l'avenir, pour maintenir une tradition démocratique. Et à chaque fois, Cassin insiste sur la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, sur la Déclaration française des droits de l'homme. et du citoyen. Donc il y a cette tradition républicaine, révolutionnaire, qui est très importante pour lui.
En tout cas, il va rester dans le paysage politique dans l'après-guerre. Il va occuper d'ailleurs de lourdes responsabilités. Il est vice-président du Conseil d'État. Et puis, parallèlement, il va travailler pour la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Donc là, on est vraiment dans l'après-guerre. Est-ce que c'est lui qui choisit l'engagement international? Il le provoque? C'est l'histoire qui le pousse?
Alors là, il faut revenir un peu en arrière. C'est que à Londres, il est chargé de dossiers importants à partir de 41, notamment comme commissaire à la justice et à l'instruction publique. Et il considère que la promotion des droits de l'homme, ça fait partie de son mandat. Donc là, déjà, à Londres, il y a un socle sur les droits de l'homme. Il y a des projets qui sont esquissés. Et en 1944, comme vous l'avez dit, il est nommé vice-président du Conseil d'État dans des circonstances compliquées. Donc ça pourrait être considéré comme un, comme on dit aujourd'hui, un full-time job, un métier à temps plein. Mmh. Mais lui, il veut continuer et prolonger les négociations qu'il a entamées. Et il se fait nommer représentant de la France à la Commission nucléaire, qui est l'anticipation de la Commission des droits de l'homme, puis à la Commission des droits de l'homme. Et là, de 1946 à 1948, il travaille au sein de la Commission, à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est lui, d'ailleurs, qui, au dernier moment, propose un amendement pour changer le titre de Déclaration internationale à Déclaration universelle.
On va détailler un peu plus sa vision du droit international. Pour ça, on va revenir quelques années en arrière, dans les années 1930. À ce moment-là, René Cassin assiste à l'effondrement du droit international avec deux visions radicales du droit qui s'opposent, avec d'un côté un modèle traditionnel, le modèle westphalien, qui prône la souveraineté absolue des États, contre un modèle fondé sur la décision d'un chef et d'une grande puissance. Est-ce que vous pouvez revenir et détailler un peu plus ces deux visions antinomiques du droit qui a prédominé dans ces années-là, dans les années 30?
Oui, alors là, il y a une opposition radicale entre, d'un côté, la vision westphalienne fondée sur l'équilibre et finalement la modération entre les puissances européennes, et puis la vision des vaincus de 1918, incarnée par Carl Schmitt, avec l'idée que c'est la force qui fait la légitimité, que c'est la décision qui fait le chef, ou le chef qui fait la décision. C'est le chef qui sauve, c'est le chef qui est légitime. Donc c'est tout à fait contraire à la vision de l'équilibre, de la modération, des compromis. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dès les conférences de La Haye de 1899 et 1913, et avec la STN, on a une autre vision, c'est d'organiser une société internationale sur la coopération. Donc pas seulement l'équilibre, mais la coopération pour des fins communes. Mmh. Et simplement, c'est donc ces trois modèles finalement.
Celle que vous venez de décrire, c'est une troisième voie qui est incarnée par René Cassin, que Cassin prône.
Ce qui est intéressant, c'est que cette voie de la coopération, Cassin trouve qu'elle est insuffisante. C'est les critiques qu'il fait à la SDN de ne pas aller assez loin. Et donc, ce qu'il souhaite lorsqu'on met en place les Nations Unies, mais évidemment, il n'est pas le seul, il y a un grand juriste belge, Charles de Vischer, qui a voulu aussi refonder le droit international sur la dignité de la personne, c'est de faire un droit international pour tous les peuples, pour tous les hommes, sans discrimination. Donc, passer d'une égalité entre les États, ce qui est déjà très bien, ce qui est contraire des doctrines racistes, de suprématie d'une race sur une autre, d'une nation sur une autre, mm-hmm. avec l'impérialisme ou l'hitlérisme, mais d'avoir une égalité des États assortie d'une égalité entre les individus, ce qui est une vision assez kantienne, pour dire les choses rapidement. Et donc là, c'est toute la construction des Nations Unies. On parle beaucoup de la Déclaration universelle, mais dès la Charte des Nations Unies, dans le préambule, il y a des formules très fortes sur la foi, dans les droits de l'homme, dans la dignité de la personne humaine. Donc c'est ça qui est le point de départ de l'Organisation des Nations Unies, telle qu'on la rêvait en 1945, et on voit aussi ses limites aujourd'hui, en 2025.
On va arriver à la Déclaration universelle de 1948, et pour la première fois, on va affirmer que certains droits appartiennent à tous les êtres humains, indépendamment des États. Qui est à l'origine de cette déclaration? C'est l'ONU qui la souhaite?
Alors oui, d'abord, dans la Charte des Nations Unies, vous avez des formules fortes dans le préambule, et puis vous avez un mode d'emploi en créant une commission pour le progrès des droits de l'homme, qui est la commission des droits de l'homme. Et à la fin de la conférence de San Francisco, le président Truman, le président américain qui avait succédé à Roosevelt, évoquait l'idée d'une charte internationale des droits de l'homme, International Bill of Human Rights. Et donc, c'était un programme de travail naturel d'expliciter ce qu'étaient les droits de l'homme, qui était consacré dans le texte de manière solennelle, mais le contenu, l'inventaire, n'existait pas. Mais je crois que ce qui est important de souligner, c'est que les droits de l'homme, ce n'est pas une bulle ou une cerise sur le gâteau, c'est inhérent au système des Nations Unies, d'une organisation mondiale et d'un ordre public international.
Alors, trois rédacteurs, j'en reviens à cette Déclaration universelle de 48, on va mandater trois rédacteurs, dont René Cassin. Qui sont les deux autres ?
Non, je pardon de vous contredire, mais il y avait 18 membres à la Commission des droits de l'homme, avec des membres plus actifs que d'autres, en excluant évidemment les peuples colonisés qui n'avaient pas d'État, et puis les ex-ennemis qui n'étaient pas dans la discussion. Mais vous aviez la présidente de la commission, Madame Roosevelt, la veuve du président américain, qui était très déterminée. Le rapporteur de la commission, c'était Charles Malik, un diplomate libanais, qui était philosophe. Il y avait un vice-président qui était un diplomate chinois. C'était avant la prise de pouvoir par les communistes en 1949. Donc c'était un alliage. Et puis il y avait des représentants des Philippines, de l'Amérique latine, des pays de ce qu'on appellera les démocraties populaires. Il y avait un soviétique, un yougoslave, un tchèque. Donc vous aviez...
Donc il y a beaucoup plus que trois simples
voilà,
rédacteurs.
Voilà, et puis même, ce qu'il faut bien dire, je crois, ce qui est important pour la portée juridique et puis politique de la Déclaration universelle, c'est que ces 18 rédacteurs se sont mis d'accord sur un texte, mais qui ensuite a été discuté lorsque l'Assemblée générale s'est réunie au Palais de Chaillot. Vous avez des débats de l'Assemblée générale pendant 2 mois sur tous les sujets. Et donc là, le diplomate pakistanais, par exemple, Sir Zafrullah Khan, qui ensuite a été président de la Cour internationale de justice, discutait sur la place de la religion et des droits de l'homme, sur les relations entre l'islam et les droits de l'homme, ou des sujets comme ça. Tout ça a été abordé publiquement.
Mais alors, on lit souvent que c'est René Cassin qui a été le principal rédacteur de cette déclaration. Est-ce que c'est vrai ?
Non, il a beaucoup travaillé, ce qui est très bien. Il y a beaucoup d'idées qu'il a fait passer. Il y a des compromis qu'il a réussi à faire passer. Par exemple, ce qui est très important, c'est justement l'équilibre entre les juristes et les philosophes avec la place des valeurs, l'affirmation de la fraternité entre les êtres humains, de la dignité. Ça vient de Cassin au début. Et puis à la fin, il y a des articles très importants qu'on néglige un peu sur l'ordre public international, sur l'ordre social. Ça vient de Cassin. Donc ça, c'est un peu l'équilibre entre les philosophes et puis les juristes qui veulent aussi des droits concrets, des garanties effectives.
Est-ce que c'est René Cassin aussi qui impose la trame inspirée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 française ?
Oui, je crois qu'il impose rien, mais c'est sa force de conviction qui pousse les autres. Et puis c'est tout de même logique. Et là, vous avez un début qui commence avec les droits naturels ou les libertés publiques classiques de 1789, mais aussi de la Révolution américaine.
De 1776.
Et, voilà. Et puis, à partir de l'article 22, vous avez un tournant sur les droits économiques et sociaux, qui sont très importants. Pour la France de l'après-guerre, c'est aussi le programme du CNR, c'est le préambule de la Constitution de 1946, mais aussi pour les Britanniques, qui étaient à l'époque, avec les travaillistes au pouvoir, c'était l'époque du welfare state, et les Américains également avaient cette vision. Roosevelt, dans son discours sur les libertés, parlait d'être libéré de la terreur et de la misère. Donc, on ne considérait pas que les droits sociaux, c'était quelque chose d'inutile. Et Cassin a insisté sur cette articulation avec la notion de sécurité sociale, qui est plus large que la sécurité sociale de guichet, c'est le welfare state. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui pouvait être sensible aux démocraties populaires. Donc là, il y a vraiment un équilibre et une construction en articulant les droits civils et politiques, et puis les droits économiques, sociaux et culturels.
La mention de ces droits-là, économiques, sociaux, culturels, c'est la grande nouveauté, ce qu'on ne trouvait pas dans les précédentes chartes, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen française ou américaine. Ça, voilà. C'est vraiment la grande nouveauté.
Donc, à l'époque de la Révolution française, on considérait que c'était la Constitution qui devait prévoir ça, donc tout ce qui était instruction publique, éducation, ou solidarité sociale s'était renvoyée à d'autres textes ou à la charité privée.
Vous dites dans votre biographie, René Cassin, La force du droit, qu'un autre des rédacteurs, l'avocat John Humphrey, l'avocat canadien, proposait une approche plus anglo-saxonne que René Cassin. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ?
John Humphrey était le secrétaire de la commission, donc il n'était pas un négociateur, bon, ce qui était un peu frustrant peut-être, mais ça c'est le rôle des secrétariats partout. Plus tard, il a été un petit peu amer de voir que Cassin ou d'autres récoltaient tous les lauriers et qu'on l'oubliait un peu. Mais sur le plan pratique, sa contribution au travail, c'était de faire des dossiers, de faire des inventaires, de faire du droit comparé. Donc il n'avait ni la vision, ni l'éloquence. Il y a un homme qui a été très important dans le secrétariat qu'on oublie toujours, c'est Henri Laugier, qui était un Français, qui avait eu un grand rôle sous la Troisième République. Il avait été directeur du cabinet du ministère des Affaires étrangères. Il s'était retrouvé à Londres. Donc c'était l'adjoint du secrétaire général et c'est lui qui chapeautait tout ce secteur où travaillait également Stéphane Hessel. Donc John Humphrey avait une mentalité un petit peu rigide, je crois. Et une des vertus de la Déclaration universelle, c'est de combiner une approche française avec des principes clairs mais peut-être un peu grandiloquents, donc l'égalité, et puis une approche anglo-saxonne, minutieuse, en disant une non-discrimination fondée sur ça, 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 ça. Donc il y a un mélange des deux, mais il y a une lisibilité. La déclaration n'est pas gravée dans le marbre, mais c'est un très beau texte qui tient le coup, avec des choses qui sont ouvertes. Il y a un souffle, et ça, ce n'est pas John Humphrey qui a donné le souffle, c'est justement les philosophes, les Cassin, d'autres. Mais ce qu'il fallait, c'est persuader tout le monde d'être à bord. Et le grand succès de la déclaration, c'est d'avoir été adopté, pas au consensus, parce qu'il y a eu des abstentions, mais sans vote contre.
Sans refus. Je voulais revenir sur ce nom-là, Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous l'avez dit tout à l'heure, René Cassin, c'est à lui qu'on doit ce nom-là, puisque à l'origine, elle devait s'appeler Déclaration internationale des droits de l'homme. Pourquoi c'est important pour René Cassin d'utiliser le terme universel et pas international ?
Alors justement, ça c'est pour viser l'humanité. Une déclaration internationale ne lie que les États. La déclaration universelle s'adresse à tous les peuples, aux individus qui n'ont pas d'État, les apatrides, les réfugiés, aux peuples colonisés également. Donc il y a une volonté de fonder une vraie universalité sur la dignité inhérente de la personne humaine. Considérer que toute personne, qu'il ait un État ou pas d'État, qu'il soit brimé par son État ou protégé par son État, a des droits naturels, des droits inhérents et sacrés, comme disait la déclaration française.
Alors, cette déclaration, elle est composée de 30 articles et d'un préambule. Je vous propose de lire un extrait du préambule.
C'est « L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent par l'enseignement et l'éducation de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelle et effective, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que par celles des territoires placés sur leur juridiction. Donc vous voyez que c'est assez compliqué parce que c'est comme des poupées russes et l'idée est tout de même d'une démarche progressive, donc des mesures progressives d'ordre national et international pour aboutir à la reconnaissance et à l'application universelle et effective. Donc l'universalité et l'effectivité des droits de l'homme, c'est l'ultime but avec des étapes. Et ce n'est pas seulement les États qui sont en charge de développer ce programme, c'est tout le monde. Et en bon professeur, Cassin insiste sur l'enseignement et l'éducation. C'est par la culture, c'est par l'enseignement, par l'éducation qu'on peut avoir toujours à l'esprit la déclaration. Et ce qui est important, évidemment, c'est la formule de départ, un idéal commun à atteindre par tous. C'est un idéalisme juridique, mais aussi un idéalisme très pragmatique, parce que, encore une fois, il faut que tout le monde aille vers ce but en tenant compte des différences de situation, de développement. la diversité des régimes politiques et sociaux. Donc Cassin, comme les autres rédacteurs de la commission, était très conscient de cette diversité du monde où, à l'époque, il y avait des écarts énormes, ne serait-ce qu'avec la colonisation.
Le texte n'est pas contraignant. Alors, ça fait quelques mois maintenant que le droit international est soumis à rude épreuve. Aujourd'hui, cette déclaration, elle est toujours citée, utilisée dans les discussions diplomatiques ?
La déclaration, on a toujours tendance, surtout les Français, à dire que c'est un engagement moral, mais que ce n'est pas contraignant, c'est de la soft law ou du droit mou. C'est plus ou moins réducteur, à mon avis. D'abord parce que la déclaration universelle est le socle de tous les développements ultérieurs faits aux Nations Unies et dans le cadre régional. La Convention européenne des droits de l'homme s'inspire de la déclaration. Elle date de 1950 et elle cite nommément la déclaration universelle dans le préambule en disant qu'on va plus loin justement dans un cadre régional. Mais même dans le cadre des Nations Unies, vous avez des traités qui sont souvent avec une ratification quasi universelle, qu'on ne peut pas dénoncer en principe, qui créent des obligations juridiques sur la base de la déclaration universelle. Donc on passe du déclaratoire au conventionnel avec des obligations et des garanties, des recours, des organes indépendants de protection. D'autre part, tout le système des Nations Unies, avec les grands organes des Nations Unies, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, mais les organes subsidiaires comme la Commission des droits de l'homme ou le Conseil des droits de l'homme, se réfèrent tout le temps à la Déclaration universelle, donc qui est la base d'un droit dérivé, d'un droit interne de l'organisation. Et jusqu'ici, personne n'a remis en cause la Déclaration universelle. Là où il y a des hésitations, évidemment, c'est sur l'interprétation des droits et puis sur la progressivité des droits. Et il y a aussi des objecteurs persistants. Les États-Unis n'ont jamais ratifié le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. La Chine n'a jamais ratifié le pacte sur les droits civils et politiques. Mais la plupart des États ont ratifié les deux pactes qui correspondent aux deux volets de la Déclaration universelle. Donc ça, c'est un deuxième argument. Et puis le troisième, c'est que dans certains États, la Déclaration universelle a été incorporée dans leur constitution, notamment des États nouvellement indépendants, comme des États africains ou d'autres, ça fait partie du droit interne. Et vous avez des pays où il y a une jurisprudence fondée sur la Déclaration universelle, ce qui n'est pas le cas de la France, mais c'est le cas de l'Inde ou d'autres pays de Commonwealth. Donc y a un bouillonnement autour de la Déclaration universelle, qui est un texte vivant, qui a des prolongements.
Elle reste un pilier aujourd'hui, cette déclaration. René Cassin, il était très attaché à la déclaration de 48. Il est allé jusqu'à l'enseigner à l'université après coup, notamment à l'Académie de droit international de La Haye, c'est ça ?
Voilà. Alors, c'est très intéressant d'ailleurs. C'est un cours qui est facile à consulter, qu'il a fait en 51, donc c'est assez rapidement après la déclaration universelle. Et il a fait, j'allais dire, le service après-vente ou la pédagogie de la déclaration universelle en disant que c'était un temple avec des frontons, etc., en expliquant tout, mais aussi en ayant un programme d'avenir. Parce qu'il ne pouvait pas se contenter d'avoir un texte. Il fallait qu'il y ait des moyens de mise en œuvre et des garanties effectives. Donc, tout un système de rapports, d'évaluation sur le plan interne, et puis des recours. Et toute sa vie, il a été l'avocat de la Déclaration universelle en expliquant, en suscitant des énergies. Vous avez cité son cours de 51, mais on pourrait citer aussi les discours qu'il a fait en 58 pour le 10e anniversaire de la Déclaration universelle. Et en 68, à la conférence internationale de Téhéran, il a encore donner une vision actualisée, si j'ose dire, des droits de l'homme en prenant en compte la décolonisation, le développement, la lutte contre l'apartheid. Et ces discours pour le prix Nobel sont des très beaux discours qui sont justement toujours une pédagogie par l'action et toujours une projection vers l'avenir. Alors qu'il avait 80 ans, donc c'était assez un esprit vraiment ouvert et toujours tourné vers l'avenir avec une sorte d'enthousiasme d'alacrité avec son accent méridional qui était très convaincant aussi, très chaleureux pour les autres.
Et cet enthousiasme, et surtout cet engagement, lui a valu, tout juste 20 ans après cette déclaration des droits de l'homme, et, en 1948, en 1968, le prix Nobel de la paix. Donc, je le disais en introduction, c'est le dernier Français à l'avoir eu en date. Enfin, il y a eu Médecins sans frontières quelques années plus tard, mais en tout cas, individuellement, c'est le dernier Français à l'avoir eu en date.
Il était un survivant de l'équipe. Donc, Madame Roosevelt l'aurait eu avec lui si elle avait été vivante. Et ce qu'on oublie, enfin ce que j'ai découvert en regardant les archives du prix Nobel, c'est que dès 1949, Lord Robert Cecil, qui était d'une grande famille britannique, qui était un homme de la SDN, a proposé le nom de Cassin pour le prix Nobel.
D'accord.
En 1950, c'est Mandela Hudson, qui était l'ancien juge américain de la Cour permanente de justice internationale, qui a proposé Madame Roosevelt et Cassin. C'est des idées qui étaient dans l'air dès l'adoption de la Déclaration universelle, contrairement à ce que pourrait dire John Humphrey ou d'autres.
Et alors, sur son entrée au Panthéon, alors, en 1987.
Cassin est mort en 1976, donc il était couvert d'honneur. Il était membre de l'Institut, il était grand cordon de la Légion d'honneur, il avait le prix Nobel de la paix, il était docteur honoris causa partout. Mais par exemple, Oxford, c'était en 1945 qu'il a été fait docteur honoris causa d'Oxford. Il souhaitait, pour que son œuvre perdure, deux choses. D'abord, il a créé en 1969 l'Institut international des droits de l'homme pour qu'à Strasbourg, on continue à enseigner les droits de l'homme avec une vision universelle et internationale. Et puis, je crois que c'est dans son interview par Jacques Chancel, il disait que ce serait pas mal d'être au Panthéon avec Jean Moulin et le gouverneur Éboué, qui était un ancien de la France libre. Et donc, après sa mort, immédiatement, le président Giscard d'Estaing a fait... je crois que c'est un décret pour organiser sa panthéonisation en 1974, et puis ça a traîné un petit peu. Et c'est pendant la cohabitation que le président Mitterrand et puis Jacques Chirac, comme Premier ministre, ont organisé cette panthéonisation avec des cérémonies émouvantes au Palais Royal, le Conseil d'État dont il avait été vice-président pendant 16 ans, et puis lors de la libération aux Invalides jusqu'au Panthéon.
Alors aujourd'hui, 50 ans après sa disparition, beaucoup d'événements sont organisés pour rappeler la mémoire et l'héritage de René Cassin. Vous avez d'ailleurs participé, vous avez organisé un colloque qui s'est déroulé à l'Institut de France le
20 février.
Le 20
c'était
février.
Le jour même de l'anniversaire. Alors
de
c'était organisé avec l'Académie des sciences morales et politiques, et puis le Conseil d'État, et puis la Cour européenne des droits de l'homme.
Tout le colloque a été filmé, donc on peut retrouver en ligne... les différentes interventions qui se sont déroulées. J'imagine qu'il y a d'autres interventions. Est-ce qu'il y a une actualité que vous souhaiteriez mettre en avant?
Par exemple, les anciens combattants de l'UFAC sont très fidèles à Cassin. Et le matin même, il y avait une cérémonie au Panthéon dans la crypte qui était impressionnante. Et puis, il y a aussi des choses qui viennent de la base. Par exemple, Cassin a fait ses études au lycée Masséna de Nice. Il y a des lycéens qui ont organisé quelque chose, avec des lectures aussi de la Déclaration universelle. Et il y a beaucoup d'établissements qui s'appellent René Cassin, des lycées, des collèges. Donc il y a pas seulement des initiatives qui viennent d'en haut, si on peut dire, mais aussi de la base, avec le sentiment d'une actualité de René Cassin, parce qu'il nous parle du courage, de la paix, de la guerre, des droits de l'homme, de l'état de droit, de la démocratie, du nationalisme, de l'Europe, de l'universalité. Et donc, c'est vraiment un homme complet. Pour faire la préface d'un catalogue d'une exposition qui aura lieu à la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, j'ai dit que c'était un homme de toutes les saisons, en reprenant une formule d'Erasme à propos de Thomas More. Mais Cassin, c'est vraiment un homme pour tout, c'est un homme de toutes les saisons.
Et en actualité, il y a aussi votre livre, René Cassin, La force du droit. C'est une biographie du juriste publiée aux éditions Calibre qui est disponible à la librairie de l'Institut, notamment. Pour les auditeurs, vous pouvez aussi aller sur le site de France Mémoire, qui donc commémore cette année le cinquantenaire de sa mort. Une notice biographique est disponible. Merci beaucoup, Emmanuel Decaux.
Merci.
Les podcasts de l'Institut de France.